Calipige. Ah, c'est ça. Ah, bah du tout.
Est-ce que vous aimez vos fesses?
Pas du tout.
Ah.
Ah ouais, non, pas du tout. Gros complexe.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui, enfin, après 650 émissions à s'arracher les cheveux, regardez ce qu'il en reste, j'ai commencé cette émission en 2022, j'avais une véritable crinière, Roman Dodwick à son prime, à décortiquer des mots et des concepts prises de tête comme la post-réalité, le fémo-nationalisme, la polémologie, et même parfois des mots qu'on n'arrivait pas à prononcer.
Et si l'Occident, qui a occidentalisé depuis toujours, tentait de se
Enfin, cet après-midi, on va zoomer sur quelque chose de simple, quelque chose de fédérateur, quelque chose de transgénérationnel, le cul. Le derche, le boule, le postérieur, le popotin, aussi appelé la croupe du diable, par Monseigneur le cardinal Bustillot, notre ami commun, avec GC, enfin, GC pour les intimes. Alors évidemment, on reste sur France Inter. On va vous parler, on va pas vous parler cul bêtement, on a un standing à maintenir, des thés dans Télérama à défendre. On a donc choisi un mot à trois syllabes un peu intello pour en parler. Calipige. Mot splendide dont Cyril Lacarrière, notre non moins splendide rédacteur en chef, va vous révéler l'étymologie dans quelques instants. Un mot qui permet en tout cas d'aborder la fesse par son versant esthétique mais aussi politique. Comment le regard sur notre postérieur a-t-il changé au fil des siècles? Pourquoi ce qui était jadis considéré comme beau, un fessier bien galbé et généreux, est-il ensuite devenu moins désirable avant de revenir à la mode? Qu'est-ce que les différentes révolutions de la fesse nous disent de nos sociétés? Est-ce qu'on ira vraiment au fond du sujet? En disant cela, fais-je vraiment seulement référence à notre sujet?
Non, le rectum.
Oui, je pense que le troisième T dans Télérama est à portée de main. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour RL Anna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. RL, vous êtes autrice de bande dessinée et passionnée de sciences humaines. Ce que vous aimez, c'est comprendre comment les histoires individuelles s'inscrivent dans des histoires collectives. Et quoi de plus personnel que ces fesses? C'est l'incroyable histoire sociale des fesses que vous nous racontez dans Derrière, une étonnante histoire de fesses, une enquête sur les fondements de nos normes esthétiques qui vient de paraître chez J.C. Lattès. Une BD que vous avez écrite et qui est illustrée par Fred Cham. Vous allez donc nous expliquer pourquoi notre regard sur les fesses s'inscrit dans un mouvement politique et social qui court sur plusieurs siècles. Cyril nous l'a bien fait comprendre en conférence de rédaction. Aujourd'hui, le programme est clair.
Du cul, des clashs, des pleurs et du cul.
RL Anna, votre livre...
C'est vraiment lui.
Oui, c'est vrai que ça ressemble vraiment... Votre livre commence par cette réflexion. Il est probable qu'en regardant votre derrière dans votre miroir ce matin, vous ne vous soyez pas dit « Ce reflet de mon arrière-train est un petit miracle permis par la société industrielle ». En effet, vous lisez en moi comme dans un livre ouvert, je ne me suis pas dit ça ce matin. Mais pourquoi on devrait avoir cette réflexion en regardant nos fesses?
Ben, tout simplement parce que pendant la majorité de l'histoire de l'humanité, on n'a pas pu voir ses fesses. Et en fait, moi, ça, c'est été une des premières réalisations que j'ai eues en faisant mes recherches. Et c'est que pour pouvoir rentrer dans l'histoire des représentations du corps, il faut aussi se pencher sur quand est-ce qu'on a vu nos corps et de quelle manière. Mmh. Et donc ça demande de se plonger dans l'histoire des techniques. Et là, celle
le
du miroir.
Mais avant le miroir, on avait bien conscience de ce qu'était la fête, parce qu'on voyait celle des autres. Donc on savait qu'on en avait nous aussi, donc on devait bien trouver des moyens pour, dans une vitre, dans un reflet, dans un lac particulièrement calme.
C'est l'eau, joli.
Dans l'eau. Oui, bien sûr.
Oui, en fait, il y a deux moyens qui ont été attestés par les historiens. C'est effectivement dans l'eau et dans des pierres sombres qui s'appelaient l'obsidienne. Et ensuite, il y a des anciennes civilisations qui ont commencé à faire les premiers petits miroirs en métal frappé, mais on s'y voyait très mal. Alors déjà,
c'était flou.
Tout petits, on s'y voyait flou. Et puis
on pouvait croire que c'était bien. Oh, quelle boule, c'est bon.
Ou à l'inverse, complètement déformé, puisqu'en plus c'était souvent concave ou convexe, donc on voyait avec un énorme pif.
On pouvait avoir des complexes terribles. Des fesses, lui, il en a vu défiler un certain nombre dans sa vie. Certaines lui ont même crié « je t'aime » à des moments où on s'attendait plutôt à ce qu'elle lui dise « aïe ». Une anecdote qu'on découvrira certainement dans son autobiographie « À toutes les fesses que j'ai aimées avant ».
À toutes les filles que j'ai aimées avant.
Oui, filles et même parfois grand-mère, sans faire offense à celles qu'on appelait jadis les Lacarzous, Cyril. Cyril Lacarrière, mon cher Cyril, bonjour.
Bonjour.
Oui, non, mais je sais qu'on s'est dit bonjour 17 fois aujourd'hui, puisque nous avons déjeuné ensemble, mais néanmoins, vous savez, je reste professionnel. Racontez-nous ce mot calipige, déjà, d'où ça sort?
Imaginez l'Antiquité grecque, les sculpteurs de l'époque obsédés par la perfection des formes, l'harmonie des proportions et bien sûr la beauté des corps nus. Leur modèle parfait a un nom, Aphrodite, déesse de l'amour. C'est de cette vieille histoire que vient notre mot du jour, calipige, manière de parler de la beauté des fesses sans tomber dans la vulgarité. Car si on utilise calipige aujourd'hui pour désigner une forme particulière d'esthétique, il est né dans un contexte très précis, celui de la dévotion et de l'humour antique. Décortiquons ce terme grec. Il se compose de deux racines, kalos ou kali, qui signifie beau ou belle, et pige, qui signifie fesse ou derrière. Littéralement, on peut donc dire que le calipige, c'est celui ou celle qui a de belles fesses.
Mais un terme qui va même se retrouver accolé à une statue.
Une statue très célèbre même, l'Aphrodite calipige. Il y en a une au Louvre d'ailleurs, si personne ne l'a piquée entre-temps. Elle représente la déesse Vénus en train de soulever son drap pour regarder par-dessus son épaule et contempler son postérieur. Moins facile que le miroir évidemment, mais plus sympa pour une représentation en statue et devenir une icône. Le calipige au départ, c'est comme une ode à la proportion, aux proportions parfaites. Une éloge du galbe, et le terme va vite dépasser le cadre de l'art et du langage savant pour désigner une personne aux formes généreuses et harmonieuses. Alors, d'où ça sort le calipige ? Eh bien, d'une simple statue d'Aphrodite, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alors, Erelana, vous l'évoquiez tout à l'heure, déjà, cette question technique, pour pouvoir voir ses fesses, il faut effectivement un miroir, enfin, pour pouvoir bien les voir en tout cas. Et vous dites que pendant longtemps, on a interdit la possession, voire la fabrication de miroirs.
En tout cas, c'est très fortement déconseillé, notamment par les institutions religieuses, parce qu'on y associait des choses qui relevaient un peu du magique, qui étaient associées aux démons, aux autres mondes. En fait, on ne comprenait pas exactement ce que c'était ces reflets. Est-ce que c'était vraiment nous ? Est-ce que c'était un univers parallèle ? Parce qu'en plus, comme il y a une inversion qui s'y passe, et les philosophes grecs, notamment, quand ils se sont penchés là-dessus, ils se sont dit, mais pourquoi on y voit notre image ? Mais par exemple, ça ne reflète pas le son. Ils étaient très perturbés par ça.
Et l'histoire du miroir, elle est importante parce que vous racontez que l'esthétique des fesses dont on va parler aujourd'hui, elle a pris de l'importance à partir de l'apparition du miroir en pied. C'était à quelle époque ça ?
En fait, c'est très récent. C'est vers le 19e siècle. Ah oui. Donc, en fait, alors, un petit peu avant pour les classes sociales supérieures, puisque les miroirs tels qu'on les connaît, les miroirs plats et transparents, ce qu'on appelle miroir cristallin, il est apparu au 17e siècle. Mais il reste très petit pour des raisons techniques pendant assez longtemps, puisqu'à l'époque, on faisait les miroirs avec le soufflage. Donc, ça ne permettait pas de faire des grands miroirs. Et c'était surtout très, très cher. Donc, réservé notamment au roi. C'est pour ça que, par exemple, la Galerie des Glaces à Versailles, c'est
c'était
un
incroyable.
Énorme truc.
Oui,
en fait,
c'était vraiment un truc technologique, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis surtout, c'était une débauche de luxe parce que c'était des mètres carrés de glace à une époque où un mètre carré de glace, ça valait plus que peut-être 10 ans du travail d'un ouvrier, en fait.
D'accord.
Ça veut dire qu'avant ça, avant l'apparition du miroir, personne ne se préoccupait, on va dire, d'avoir de belles fesses ?
Alors, en fait, on retrouve très très peu dans les archives, effectivement, de descriptions esthétiques des fesses. On retrouve des descriptions de fesses, enfin, de dire, par exemple, la fermière fessue, mais les fesses ne sont pas décrites. Mmh. Et surtout, elles ne sont pas décrites comme quelque chose d'esthétique. Ce qui est décrit comme esthétique, c'est plutôt les parties hautes du corps. Et c'est au 19e siècle qu'on voit apparaître des descriptions esthétiques du bas du corps. Et effectivement, ça correspond au moment où les gens commençaient à voir le bas de leur corps.
Il n'y a pas un réflexe un peu primitif, animal ? Au fait de regarder les fesses des autres ou de...
Alors, en fait, on ne peut pas dire avec certitude que ce n'était pas une partie qu'on trouvait excitante, et notamment parce que c'était associé à l'interdit, par exemple. Mm-hmm. Mais en revanche, ce n'était pas quelque chose qui était décrit comme joli ou esthétique.
Je me tourne vers vous. En fait, je ne me tourne plus, puisque maintenant, vous êtes en face de moi.
Oui.
C'est extrêmement pratique, Marie Debreu. J'en profite pour vous souhaiter la bonne année.
Bonne année !
Bonne année !
Bonne année ! Et la santé, bien sûr. Hein. Moi, 2026, c'est l'année healthy, j'annonce. On va la faire chauffer, cette carte vitale. D'ailleurs, je suis allée chez le médecin pendant les congés pour un frottis. Et bien, le spéculum en plastique s'est brisé dans ma boîte à malice. Voilà. Donc, deux explications possibles. Soit l'objet est de mauvaise facture. Hein, c'est une mauvaise nouvelle, puisque c'est un truc qui se fourre dans le chausson aux pommes. Soit j'ai la viennoiserie hyper puissante et je peux briser du plastique avec. Quoi, c'est... Bref, bonne année et la santé. Mon sujet.
Oui, c'était quoi ton sujet,
le JDD a publié sa liste du top 50 des personnalités préférées des Français. Et trop zarbi, c'est pas le même classement que celui de TF1. Voilà, les personnalités d'extrême droite sont bien mieux classées, plus représentées dans le top du JDD. Le journal déclare, pour ceux qui en doutaient, la France penche à droite. Comme toi, Quentin, la tienne, elle penche à droite. Oh. Trop marrant. Enfin, la France, elle Elle en a pas une beaucoup plus grosse que l'autre. Whatever, nobody shaming. Dans les deux sondages, les personnalités comme Jordan Bardella ou Marine Le Pen sont pas du tout classées à la même place. Hein, 4e et 7e pour le JDD et 12e et 23e pour TF1. C'est pas pareil. Hein, pour vous faire un parallèle, le 4e monument le plus visité de Paris, c'est l'Arc de Triomphe. Et le 12e, eh bien, c'est le bout du trottoir en face de la vitrine de la boutique de Cédric Grolet. Voilà. Tu peux le voir découper 700 kilos de pommes granny pour faire des trompe-l'œil en forme de pommes granny. Voilà, c'est pas tout à fait la même ambiance. Je me demande comment ils font quand même pour obtenir des chiffres aussi différents. Quoi. Après, en vrai, c'est très facile de biaiser une statistique. Moi, je le fais tout le temps. Voilà, grâce à une astucieuse technique qui consiste à déplacer la virgule, je pèse actuellement 13,8 kilos. Une bonne dinde, quoi. L'institut de sondage à qui le JDD a commandé le top 50, c'est le CSA, qui a été fondé par Vincent Bolloré. Le JDD qui appartient depuis 2021 à Vincent Bolloré. Et d'ailleurs, c'est Vincent Bolloré qui a écrit l'article sur le JDD. Voilà, le mec fait des piges pendant ses vacances de Noël, quoi. Apparemment, il a trouvé la messe de minuit trop relou cette année. Et voilà, il s'est occupé autrement, le mec. Du coup, le JDD, dans leur lancée, ils ont aussi fait un nouveau sondage sur les plats préférés des Français. On dit au revoir au couscous qui dominait le classement jusqu'alors pour ne trouver que des aliments blancs. Alors, on retrouve en top 1 le lait, top 2 le brie, top 3 la crème fraîche, en 4 encore le lait, mais demi-écrémé cette fois, en 5 le riz, hein, mais pas le basmati ou l'Uncle Ben's, hein, le riz de Camargue, et en top 6 c'est bien le sel. Nickel. Une des explications de la différence entre les résultats des sondages, c'est probablement qu'ils ne proposent pas le même panel de personnalités aux personnes sondées. Hein. Madame, vous préférez Michel Sardou ou Michel Fourniret? Je sais pas, Michel Sardou. Et vous préférez Michel Sardou ou Dominique Pellicot? Ah oui, bon, allez. Moi, j'ai fait mon propre sondage, du coup, voilà, parce que j'ai poussé un peu plus loin, parce que je trouve que le top 50, c'est pas assez. Alors, j'ai fait un top des 3500 personnalités préférées des Français. Et alors, figurez-vous qu'en 3487e place, il y a Marie de Brouwer. Oh là là, bah oui. Je suis classée entre Pierre Ninet dans son rôle dans Le Comte de Monte Cristo et Pierre Ninet dans la vidéo de McFly et Carlito. On devine 76 saveurs de yaourt avec Pierre Ninet qui a joué Le Comte de Monte Cristo. Et bah, merci, je suis trop touchée. Quoi.
Merci Marie de Brouwer. À suivre, faut-il craindre l'arrivée du fentanyl en France? On en parle avec un médecin spécialiste. Quentin nous livrera son légendaire, désormais complètement à la rue. Et puis on se penchera sur le cas du grand chef Paul Bocuse. Le temps d'écouter Holly Cook, Shy Girl. Tonight.
Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Le médecin spécialisé en toxicologie et chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris, Bruno Mégarban, est avec nous pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce fléau qu'est le fentanyl. Alors déjà, pourquoi le fentanyl est aussi addictif ?
Alors, il n'est pas plus addictif qu'un autre opioïde. Il est tout autant addictif que la morphine, l'héroïne. En fait, l'addiction aux opioïdes est la même. Par contre, les dangers de l'opioïde utilisé sont différents.
Et pourquoi les dangers sont supérieurs dans le cas du fentanyl ?
Parce qu'en fait, il peut donner beaucoup plus facilement une dépression neuro-respiratoire. Cette dépression neuro-respiratoire a deux mécanismes. Contrairement à la morphine, elle a un mécanisme central qui est commun à l'ensemble des opioïdes, c'est-à-dire par ralentissement de la fonction des centres, de la commande de la ventilation respiratoire, mais également une complication un peu typique des fentanyls et de ses dérivés, c'est une contracture des muscles inspiratoires, notamment du diaphragme, c'est ce qu'on appelle un thorax en bois, c'est-à-dire la personne, très peu après l'exposition au fentanyl, va avoir une hypertonie de ses muscles et donc l'impossibilité de respirer et donc le décès.
Ah oui, c'est ça le mérite d'être clair.
Comment ça se prend le fentanyl ?
Toutes les voies sont possibles.
Toutes les voies sont possibles.
Oui, donc sniff, injection, inhalation, tout est possible.
Mais quand c'est prescrit par un médecin, quand ça a été prescrit, je suppose que c'est par cachet.
Alors, en fait, le fentanyl, c'est essentiellement utilisé à l'hôpital, au bloc opératoire, en réanimation. Il existe des formulations, on va dire, ambulatoires, mais évidemment, elles sont extrêmement régulées en termes de prescription, à des posologies beaucoup plus faibles. Elles sont essentiellement par voie percutanée.
Mais donc, j'imagine que le problème de la dépendance, on comprend facilement, mais il doit y avoir un autre problème, tout simplement, de mortalité par overdose avec ça. Si une dose infime de fentanyl peut, chez certains, provoquer...
C'est ça le problème, justement. C'est ce qu'on appelle la crise des overdoses mortelles aux États-Unis, donc qui sévit depuis 25 ans. Les 10 premières années étaient liées à l'oxycodone. Depuis, c'est essentiellement lié au fentanyl. En tout, cette crise a entraîné le décès d'un million d'Américains.
Mais ça coûte combien de prendre du fentanyl ?
Alors, je veux dire, le coût unitaire aux États-Unis, je ne le connais pas. Mais il faut savoir que le fentanyl arrive aux États-Unis à partir du Mexique. Donc, les produits, les matières premières sont importé de Chine. Le produit est fabriqué dans des laboratoires clandestins au Mexique, et puis il pénètre par la frontière sud des États-Unis et inonde le marché.
Mais c'est moins cher que d'autres drogues peut-être.
C'est moins cher que l'héroïne, ça c'est certain. Maintenant, c'est probablement un peu moins cher que l'oxycodone, mais j'allais dire, ce type d'opioïde est un peu dans le même gamme de prix. Par contre, c'est clairement moins cher que l'héroïne, car l'héroïne vient de la morphine qui est extraite du pavot d'opium, et donc il ne faut l'amener d'Afghanistan. Donc c'est beaucoup plus coûteux.
Mais comment on s'en procure ? Concrètement, je pense aux millions d'addicts du coup.
Alors au début, c'était donc une crise des opioïdes de prescription, puis rapidement, c'est devenu une crise des opioïdes de rue. Donc il y a des dealers, comme en France, on a des dealers
de la cocaïne,
cannabis et de cocaïne. On peut acheter le fentanyl dans la rue aux États-Unis à partir de dealers qui achètent eux-mêmes le fentanyl à partir de gangs et de mafias mexicaines.
Et d'un mot, pourquoi vous dites que c'est pas possible que ça arrive en France selon vous ?
Alors pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas cette population qui a été rendue dépendante aux opioïdes avant l'arrivée du produit. Deuxièmement, les frontières de la France et les pays adjacents font qu'il est très peu probable qu'il puisse y avoir une base arrière de laboratoires qui synthétisent du fentanyl et qui inondent le marché. Enfin, surtout, les autorités sanitaires en France sont beaucoup plus réactives et donc, évidemment, au moindre doute quant à des prescriptions excessives, quant à un mésusage d'un produit, il y aurait des alertes et des décisions prises qui ont tardé aux États-Unis.
Lundi de la rentrée, 0 degré, ressenti moins 5, des conditions idéales pour un micro-trottoir. Car quoi de plus agréable que de papoter avec Quentin, lui, sur le sujet hier du fentanyl en risquant l'hypothermie. Quentin, ça n'a pas dû être facile ce matin dans la rue.
Disons que je redécouvre le froid.
Oui.
Voilà, je pensais avoir froid en décembre, mais je me suis trompé. Je marche non loin de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris. Ici, à l'angle de la rue de Lyon et du boulevard Diderot, j'entends qu'on commande une formule petit déjeuner viennoiserie jus d'orange. J'arrête ce jeune homme, valise au bout des bras, qui vient de commander son VTC.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Corentin.
Corentin, vous êtes la première personne que j'arrête en 2026.
C'est vrai.
Bonne année.
La chance.
Bonne année à vous aussi.
Est-ce que vous partez de vos pieds ?
Je pense, mais bon, ça a été un peu compliqué de s'y remettre. Déjà, le 1er janvier était costaud, quoi.
Ouais, costaud, comme celui de Manon Mariani, certainement. On embrasse. Est-ce qu'il connaît le mot du jour de Zoom Zoom Zen ?
Oui, ça je connais, ouais. Le fentanyl. Ouais, j'ai vu beaucoup de reportages aux États-Unis surtout. Drogue de synthèse, pas chère. Fabriquée par les Chinois. C'est le vrai risque, c'est que ça vienne en Europe. C'est 10 fois moins cher que toutes les autres drogues. Faut pas que ça arrive ici alors. Parce que quand on voit les villes zombies, moi j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis et dans chaque ville tu vois des jeunes comme nous qui sont à la rue et tu les vois drogués, mais pas drogués comme quelqu'un de pauvre en France. Là ça fait vraiment peur. C'est zombies et à toute heure, c'est juste triste, quoi.
Avant de me quitter, Corentin partage avec moi ce constat d'impuissance.
C'est inarrêtable. Comment on peut contrôler ça, en fait ? Ça va dans tous les sens. C'est incontrôlable. Et même, je voyais un reportage la dernière fois sur Canal. On te montre Circus, je sais pas si tu connais. C'est un reportage où on montre qu'aussi les politiques sont responsables aussi de ça. Par des saisies records, on va te faire croire qu'ils ont chopé 2 tonnes de cocaïne, je sais pas où. Et au final, ils avaient juste un informateur et ils ont travaillé avec cet informateur-là. Et au final, ils sont complices de ça aussi. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu hypocrite des fois.
J'arrête cette jeune femme qui marche, les mains bien cachées dans les poches de son manteau.
Le fentanyl.
Est-ce que vous savez de quoi on parle ?
Ouais, c'était qui a tué beaucoup de gens, qui a rendu...
48 000 overdoses en 2024.
C'est le film qu'a fait Nan Goldin contre cette drogue-là.
Elle fait référence au documentaire « Toute la beauté et le sang versé » sorti en 2022 qui retrace la vie de la photographe Nan Goldin. Elle parle de son activisme contre la crise des opioïdes. Après sa propre addiction à l'oxycontine, elle fonde le groupe PAIN, Prescription Addiction Intervention Now, pour dénoncer le rôle de la famille Sackler et de leur société Purdue Pharma, responsable selon elle de milliers de morts par overdose. Sur ma route, je croise maintenant cette bande de copains qui se moquent de moi. Je suis quand même là en bonnet, en écharpe et en gants à arrêter les gens avec un micro et pour leur faire lire un mot. Ils visitent Paris, mais d'où viennent-ils ?
Près de Washington, D.C. C'est quoi le mot que tu voulais ?
Ça.
Fentanyl.
Why ? Ben oui, je leur explique à ces étudiants de Washington qu'on fait une émission sur ces chiffres alarmants. On parle, de même vous le disiez, près de 90 000 overdoses en 2024 aux États-Unis.
Il y a des villes où le phénomène est bien plus visible que dans d'autres. À Los Angeles, par exemple, c'est très marqué. À New York, certains quartiers vont très bien, mais ailleurs, ça saute aux yeux. Je dirais que Washington est aussi concerné et Philadelphie particulièrement touchée. Je pense que c'est un énorme problème, mais je dirais qu'en Amérique, ils font plutôt bien les choses. En gros, chaque année au lycée, on regarde des vidéos et on suit des cours pour expliquer à quel point le fentanyl peut être dangereux. Et je pense qu'ils doivent continuer à le faire.
Nous parlons de la frontière fine qui existe entre médicaments et drogues, entre prescription et dose. Est-ce qu'il y a une différence culturelle, par exemple, entre les États-Unis et la France ?
Je pense que surtout aux États-Unis, les médecins ont tendance à prescrire beaucoup plus facilement. Il suffit parfois de dire qu'on a un peu mal pour qu'ils passent immédiatement à des traitements très forts, censés vous soulager tout de suite. En Europe, j'ai l'impression que c'est différent. Il faut prouver davantage, justifier plus longtemps, passer par plus d'étapes, quitte à supporter la douleur. Aux États-Unis, les opioïdes sont souvent prescrits presque immédiatement.
Josh, son ami, l'écoute et puis conclut.
Et j'ajouterai, dans la continuité de ce qui a été dit sur la surprescription des opiacés, que certaines entreprises en ont énormément profité. Il existe de fortes incitations, surtout dans un système de santé très privatisé, pour que les médecins prescrivent des opiacés. Parce que, bien souvent, les patients deviennent dépendants, ils reviennent en demander, et le système continue ainsi. Il y a d'ailleurs une famille qui a été accusée d'avoir fait fortune grâce aux opiacés, une affaire très importante dont vous avez probablement entendu parler aux États-Unis.
Dans les rues américaines, certains voient passer des zombies. À Washington, ces jeunes parlent de marché, d'un système bien rodé. Donald Trump, lui, parle d'une arme de destruction massive, allant jusqu'à comparer le fentanyl à une bombe. Le problème, c'est qu'une bombe ne tombe jamais toute seule. Quelqu'un l'a conçue, quelqu'un l'a déclenchée et quelqu'un en tire encore profit.
Bonjour Gauthier Battistella.
Bonjour.
Vous êtes romancier, on vous doit notamment Un jeune homme prometteur en 2014 et plus récemment Chef, publié tous les deux chez Grasset. Vous avez aussi été journaliste gastronomique au Guide Michelin et vous sortez aujourd'hui une biographie romancée intitulée tout simplement, on l'a dit, Bocuse, le roman vrai du plus grand chef du monde disparu en 2018, 3 étoiles. Gauthier Battistella, on se penche donc sur l'histoire du plus célèbre chef français, au-delà de la France d'ailleurs. Est-ce que pour vous, Paul Bocuse reste à jamais le plus grand chef du monde ?
Je ne crois pas qu'il y ait un plus grand chef du monde. Ce que Bocuse reste, c'est un nom, et ce nom-là a libéré complètement les cuisiniers. On est à la fin des années 60, les cuisiniers, juste pour donner un exemple, avaient une espérance de vie de 50 ans. Ils étaient au sous-sol, ils travaillaient, ils buvaient les vins de sauce. Et ce qu'a fait Bocuse, c'est qu'il les a sortis de là. Il en a fait des rockstars. C'est-à-dire que sans Bocuse, pas de top chef. Voilà. Bocuse n'était pas du tout Nouvelle Cuisine.
Oui, il disait qu'il ne se revendiquait pas du tout Nouvelle Cuisine.
Mais il pourtant a compris que s'il ne l'embrassait pas, il serait dépassé par elle. Donc il prend la Nouvelle Cuisine, et il sort les chefs, il leur redonne de leur orgueil, et il va créer la veste bragard, le col bleu-blanc-rouge, la toque. Enfin, il va créer leur imaginaire, tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Vous racontez que toute sa vie sera marquée par la détermination à restaurer l'honneur du nom Bocuse. Il avait un honneur à restaurer ?
Alors, c'est une bien étrange histoire. Son père était aubergiste, et donc le petit Paul grandit, vous l'avez dit, sur les bords de Saône, mais son père n'avait pas le droit d'utiliser le nom Bocuse, parce que le grand-père de Paul, donc le père de Georges, le père de Paul Bocuse, pardon, j'espère que je suis clair, avait un dépit amoureux, c'est-à-dire que sa femme avait été séduite par certaines personnes, dont Auguste Lumière.
Ah.
Et de dépit, il a vendu le nom Bocuse à un Russe. Ce qui fait que dans la rue, on l'appelait Bocuzov.
Ah
ouais. Et toute sa vie, Paul a très très mal vécu ça. Il a vécu ça, et c'est intéressant que vous posiez cette question, parce que je passe assez de temps sur l'enfance du petit Paul, qui est déterminante dans ce qui va devenir et le grand chef, c'est qu'il voulait quelque part venger l'honneur de son père. Il voulait retrouver son nom, et d'ailleurs il va l'étaler en lettres capitales sur son restaurant. Et quelque part, ces 3 étoiles, c'est pour son père. Mais son père ne sera pas là pour les voir.
Il ne verra jamais ces 3 étoiles.
Il verra la première étoile.
Il verra déjà la première. Est-ce qu'il a envisagé...
Il meurt un an après l'obtention de la première étoile.
Est-ce que le petit Paul Bocuse, il a envisagé autre chose que la cuisine pour tenir sa revanche? Ou est-ce que ça a toujours été son objectif?
Je crois qu'il n'a pas eu le choix. Il a grandi dans les produits. Après, ce qu'il faut voir, c'est que Paul Bocuse s'imagine un peu Loubar. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, à la Libération, il monte à Paris, il siphonne les jerrycans des Jeeps américaines, il vend l'essence au bordel, etc. etc. Mmh. Et c'est son père qui le ramène dans l'auberge familiale.
Gauthier, vous revenez dans ce livre sur cet adage auquel Bocuse aura toujours été fidèle, travailler comme si on devait vivre 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain. Qu'est-ce que ça dit de sa personnalité ?
Ça dit beaucoup de choses, ça dit quasiment tout de Paul Bocuse. Et donc il est blessé à la guerre, il est à deux doigts de mourir, on lui transfuse du sang américain, les GI lui tatouent un coq sur l'épaule. Et d'ailleurs Bocuse disait, quand les questions des journalistes m'ennuient, je lui parle à mon coq, voilà, je me baisse vers lui. Et donc il se dit que tout ce temps qu'il a en plus, c'est du temps gagné. Et c'est une force qui va, il a un instinct qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que tout ce qu'il tente, il le réussit.
Il n'a jamais connu d'échec, Paul Bocuse.
Une fois, il a raté le concours du MOF. C'est le seul échec qu'il connaisse.
Les choses s'enchaînent finalement assez vite, puisqu'en 1954, il retourne travailler dans l'auberge familiale. En 58, il obtient sa première étoile Michelin, donc 4 ans après. La deuxième en 62, la troisième en 65. Il dit une phrase incroyable quand il reçoit sa troisième étoile. bon, on va pouvoir, on va pouvoir commencer à travailler.
Ah oui, on va pouvoir commencer à travailler. Oui, parce qu'à l'époque, non, mais il faut imaginer que, quand même, juste pour vous donner une idée, je vous donne juste un exemple. Pour faire les sets de table, ils ramassaient les feuilles de platane dans la cour, qu'ils congelaient, qu'ils décongelaient, et on mangeait sur ça. Les toilettes étaient toujours à l'extérieur. Ils avaient très, très, très peu de moyens. Et là, en effet, à partir de là, c'est le début. Hein.
Il faut que vous nous racontiez, il faut qu'on s'arrête sur ce thème de nouvelle cuisine, un terme qui est indissociable de Bocuse, pourtant, il l'embrasse un peu à contre-cœur.
Alors, cette nouvelle cuisine, en vérité, c'est l'évolution naturelle de la gastronomie. C'est que tout le monde allège tout le monde. C'est-à-dire que Escoffier a allégé Carême. Alléger, ça veut dire quoi? Par exemple, pour une sauce, avant, on mettait de la farine. Maintenant, on la fait réduire, par exemple. Et on a deux compères qui sont Goemio, deux journalistes, qui arrivent et qui vont donner un nom à quelque chose qui existait déjà. Donc, un soir, ils arrivent chez Bocuse et Bocuse leur sert une salade de haricots verts craquant. Et alors là? Alors là, la nouvelle cuisine existe, je l'ai rencontrée. Et ils savent qu'en disant ça, ils deviennent aussi propriétaires de ce nom de nouvelle cuisine. Et donc Bocuse les envoie chez les frères Troisgros, avec cette fameuse recette du saumon à l'oseille. Et très vite, ils commencent à se dire, il y a un truc à jouer là-dedans. Et ils se disent, si la nouvelle cuisine me dépasse, je n'existerai plus, je deviendrai ringard. Donc il décide d'être ce héros de la nouvelle cuisine. Il prend les copains, Michel Guérard, Troisgros, Louis Outhiel à Napoules, Chapelle, et ils vont devenir la grande bande de la grande cuisine française, et ça va durer une dizaine d'années.
Merci Gauthier Battistella, je rappelle le titre de votre livre, Bocuse, chez Grasset. Le Zoom Zoom Test arrive et on parlera de 1984, le chef-d'œuvre d'Orwell, avec une experte, et Manon Mariani nous enverra évidemment sa traditionnelle pièce jointe, juste après une petite pause musicale, Mira, Splash sur Inter.
Debout, j'adore ta soirée. Elle fait des tresses le week-end. Bon Dieu, là, pas de sens. Splash dans tes termes, cache dans la team. Sweet pussy, god damn. Ça me fascine, oui, ça me plaît. Elle fait le chien en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps. Elle est fraîche de la tête au hoc. Elle sent le parfum Sephora. Douce comme un Ferrero. C'est cute, c'est délicieux. L'a mis le top en coquillage. Trop fraîche, pas de maquillage. Son petit crop top rétro. C'est trop lolo. Bébé big brains, gros lolo. Son body c'est pas un film d'auteur. C'est un blockbuster. Debout, j'adore la soirée. Elle fait les tresses le week-end. Bon Dieu, pas de sens. Splash dans tes termes. Cache dans le team. Sweet pussy, god damn. Ça me fascine, oui ça me plaît. Elle fait le chien en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps. Que du chata, baby, pas de bachata. Que du chata, baby, pas
il
de bachata.
Il faut si je le fais.
Que du chata, baby, pas de bachata.
Il faut te marier,
que
je
du
le
chata,
fais.
Baby, pas de bachata. Debout, j'adore la soirée. Elle fait les tresses le week-end. Bon Dieu, pas de sens. Splash dans tes termes. Cache dans la team. Sweet pussy, god damn. Ça me fascine, oui ça me plaît. Elle fait le chignon en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps.
Elle a une skin care, ma soeur, une peau. Des curls à la coco, baby. Je t'en parle. Elle est drôle, elle fait des très bonnes blagues. Elle est très très drôle.
Et elle fait des espèces de pâtes au pesto.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Quentin en 2026, Manon? Peut-être ne plus se ridiculiser dans le quiz. Vous avez raison, vous avez raison.
Encore un bel enregistrement.
Vous avez raison, janvier.
C'est pas mourir, hein.
Janvier doit être l'occasion de se fixer des objectifs, mais pour que ça ait du sens, il faut que ça reste dans le domaine du plausible. Jouons donc au Zoom Zoom Test.
Vous trichez, vous lui avez donné la victoire hier, alors qu'il y avait 1-1.
Je n'ai donné la victoire à personne, c'est Cyril Lacarrière en régie qui décide.
C'est du favoritisme.
À la découverte aujourd'hui de ces œuvres qui font référence parfois frontalement, parfois de manière plus subtile ou cryptique, au roman 1984 de George Orwell. Et on commence en musique, nous sommes en 1974. Où, selon le calendrier alternatif proposé par le site Journal Tech, qui est fan de lui, l'an moins 1 avant Cyril Lacarrière. Cette année-là, pour tuer le temps en attendant la venue du messie du journalisme média, un artiste mondialement connu se lance dans un projet qui, hélas, ne verra jamais le jour. Une comédie musicale adaptée du 1984 d'Orwell. Il en restera ce titre, sorti donc en 1974. Je vous en livre les 20 premières secondes.
Mais faut trouver ce que c'est, Mathieu ?
Attendez, vous parlez pas dans le micro là.
Je vous laisse vous imprégner de cette musique.
Mais d'accord.
Et vous avez bien évidemment reconnu, car vous avez l'oreille absolue, le style caractéristique de David Bowie, Barry White ou Frank Zappa.
Ah, bah oui, mais en fait, le problème, c'est que c'était marqué devant nous. Je préfère vous le dire.
Ça, après, voilà. Ce que fait la régie, voilà. Ce que fait le réalisateur Ghislain Fontana, qui ne s'est pas remis encore de ses agapes du Nouvel An. Voilà. Réponse.
Du coup,
A,
je ferme.
Effectivement, qu'on va donner à Manon, vu qu'hier, elle a été lésée, apparemment.
Oui.
Même Cyril s'est fait berner, croyant avoir entendu les premières notes de Lady Marmelade, sur lequel il avait remporté le titre de Mr. Pat Def au Why Not de Ponto Corvo en 92. Le projet initial de Bowie était une comédie musicale tirée du livre, mais les droits ayant été refusés par la veuve de George Orwell, The Beach, aurait dit Bowie, le titre a finalement été recasé sur l'album Diamond Dogs. Philippe Manœuvre, quelque chose à ajouter peut-être ?
Oui, alors ce titre est une anomalie dans la discographie du futur Ziggy Stardust avec cette intro très très isakaï.
Oui, merci Philippe, on n'a plus le temps, je vous tase. Mais restons en musique avec ce groupe qui lui aussi a déclaré s'être inspiré ouvertement des mésaventures de Winston Smith, le héros malheureux d'Orwell, pour les paroles d'un de ses albums qui aborde des thèmes comme l'amour secret, le combat, la dictature ou encore la rébellion des ordinateurs. Non, Cyril, rangez votre flûte à bec, il ne s'agit pas de U2, car il s'agit du mythique Black City Parade d'Indochine, de l'iconique OK Computer de Radiohead, ou du lyrique Résistance de Muse.
Mais... C'est
OK Computer de Radiohead. Et évidemment, ça parle de computer. Le mot ordinateur a résonné tout de suite. Computer. Vous pensez que c'est la
Muse ? C'est peut-être Muse.
C'est Muse, c'est une bonne réponse de Quentin, effectivement. Alors, Cyril, vous pouvez ressortir votre flûte, en tout bien tout honneur, bien sûr. Pour nous jouer, s'il vous plaît, Uprising, un des titres phares de l'album Résistance de Muse, dont on n'a pas les droits. Il faut le jouer à la flûte.
C'est du gâchis, hein.
C'est vraiment... Et j'apprécie, Cyril, que vous jouez de la flûte tout en jouant du tambourin.
Avec ses pieds.
C'est très, très
fort. C'est un homme orchestre.
C'est très, très
avec
fort.
Avec ses pieds.
C'est le Rémi Bricat de l'info. C'est vraiment un des aspects sur lesquels je trouve le site Journal Tech n'a pas assez insisté dans sa pourtant très complète biographie de Cyril Lacarrière. Son don prodigieux pour les instruments à vent, de la flûte à bec à son propre colon. Mais passons, car je vous rappelle le thème du quiz, évidemment. Ces artistes qui ont été inspirés par l'œuvre d'Orwell.
Oui,
on l'avait oublié. Quentin et Manon, puisque vous avez évidemment relu 1984 pour préparer cette émission, vu ce que vous êtes payé, en plus par nos impôts, c'était le minimum. Vous savez que l'histoire se déroule dans une sorte de Grande-Bretagne rebaptisée Airstrip One, une des provinces d'Océania dirigée d'une main impitoyable par Big Brother. Mais dans la série La Servante Écarlate, dont le pitch combine à la fois le côté feel-good de 1984 et les possibles lendemains chatoyants du Trumpisme, comment s'appelle la dictature théocratique, totalitaire et patriarcale qui s'est installée aux États-Unis ?
Je peux le dire sans avoir de réponse.
Alors, je vous laisse, attention, Manon, là vous prenez un risque fou, vous prenez un risque inconsidéré.
Gilead.
Alors, s'agit-il du régime de Gilead, de la République de Gilead,
tout à fait,
ou des États confédérés de Gilead.
Je crois que j'ai le droit de répondre, du coup.
Attends, mais c'était quoi, du coup ?
La République de Gilead, les États confédérés de Gilead, ou le régime de Gilead.
Ah,
on fait le balai.
Les États confédérés.
Les États confédérés, c'est une mauvaise réponse de Manon Mariani qui s'est plantée
lamentablement.
C'était la République, impossible de planter, vous êtes des nullos. La République de Gilead. La République de Gilead est cette Amérique dystopique qu'il est finalement de moins en moins. À mesure qu'avance le deuxième mandat de Donald Trump, pour le professeur d'histoire de la pensée politique Gregory Claeys, l'élection de Trump a donné une énorme impulsion au genre dystopique aux États-Unis. Non seulement les femmes manifestent en tenue de servante, mais les ventes de 1984 ont explosé durant le mois qui a suivi l'élection du président. Pour finir ce quiz 1984, direction justement, 1984. Cyril Lacarrière effectue son premier voyage aux États-Unis grâce au jumelage entre Ponto Combo et Bâton Rouge en Louisiane. Dans la famille de sa correspondante, Kimberly Big Boobs, il découvre un soir de janvier le Super Bowl et ses charmes. La bière et les taches de sauce nacho sur le t-shirt. Ivre mort dès la première remise en jeu, il se réveillera juste à temps pour les fameuses pubs de la mi-temps. Marqué cette année-là par un spot qui fait référence à 1984 d'Orwell. Une pub pour la nouvelle Ford Bronco, réalisée par Sylvester Stallone. Un spot pour Domino's Pizza, réalisé par George Lucas. Ou une pub pour le tout premier Mac, réalisé par Ridley Scott.
C. Pardon.
B. Domino's.
Vous n'avez pas à vous excuser quand vous donnez, par hasard, pour une fois,
non, mais si,
la
c'est
bonne
réfléchi.
Réponse.
Bah non, mais Domino's,
la bonne réponse, effectivement,
pas,
réponse C. Et oui, nous sommes en 1984 et à la mi-temps du Super Bowl, les téléspectateurs découvrent un spot assez flippant. On y voit des citoyens lobotomisés fixés à un grand écran sur lequel s'agite un tyran façon Big Brother quand soudain une femme lance un marteau d'athlétisme sur l'écran, arrachant les citoyens soumis à la dictature. La pub se termine par ces mots.
On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Wow. Eh oui, encore une nouvelle flèche à votre arc du gai savoir. La pub pour le tout premier Mac a été réalisée par le réalisateur d'Alien et de Blade Runner. Et tout ça pour nous vendre un ordinateur dont la puissance de calcul est inférieure à celle du air fryer de Manon. Abba, Big Brother et victoire de Manon Marié. Oh. Pour Quentin, j'ai cru pour vous.
Oh. J'écoute, moi, je passe un bon moment.
C'est vrai.
Hein.
Et c'est là l'essentiel.
Et c'est vrai, on rigole bien, on apprend.
Et votre imitation de Philippe Manœuvre,
ben voilà.
Au cordeau.
Génial.
Hein,
Zoom, super.
Les amis, sur 1984, l'œuvre de George Orwell avec l'une de ses meilleures connaisseuses, l'écrivaine Isabelle Jarry. Isabelle, j'aimerais revenir sur un point important. On parle de Big Brother. Est-ce que Big Brother aujourd'hui, c'est pas l'ensemble des patrons de la tech qui contrôlent les réseaux sociaux, qui aussi ont la main sur l'IA, ou bien en épiant en permanence la vie des gens, d'inconnus à travers les réseaux sociaux, le vice que n'avait peut-être pas vu venir Orwell, c'est que finalement il n'y a pas besoin d'un Big Brother vertical, on est tous devenus des petits Big Brother horizontaux qui s'épient les uns les autres, c'est peut-être ça que le livre n'avait pas vu ou il l'avait vu aussi.
Je pense qu'il l'avait vu parce que Big Brother c'est une figure, c'est une image, c'est pas quelqu'un. En réalité,
mais
le
c'est
roman,
pas quelque chose qui est au-dessus de nous.
Oui, c'est au-dessus, mais comme Dieu est au-dessus, comme le président des États-Unis est au-dessus, enfin. Il y a une position dominante, mais en réalité, c'est complètement horizontal comme système. Et ça, je trouve que c'est très fort. Dans le livre, on le sent. On sent comment ce régime est relayé, ce Big Brother qui n'existe peut-être même pas, est relayé par tout un appareil d'État très proche du régime communiste, d'ailleurs, qu'il soit russe ou qu'il soit stalinien ou maoïste. Il y a une sorte d'appareil qui, où partout, il y a quelqu'un qui peut potentiellement vous arrêter, vous envoyer en prison, vous faire taire, etc., vous empêcher. Et je pense que c'est ça que permet la fiction aussi, de donner l'image d'une position dominante, qu'on appelle Big Brother. On comprend aussi tout le retournement. C'est pas du tout un frère, hein. C'est exactement l'inverse. Mais en réalité, c'est tous les sbires nombreux qui exercent le pouvoir.
Si on veut voir une société assez orwellienne en vrai. En Chine, il y a le système du crédit social, qui est quand même un système qui fait que, y compris dans votre vie privée, on vous épie en permanence et ça vous donne une note qui ensuite impacte le coût de votre mutuelle, de votre assurance. Vous êtes noté en permanence. En fait, ça pourrait être une forme d'avenir qui était pressentie dans 1984.
Exactement. Je pense que ce qui est intéressant quand on lit 1984 aujourd'hui, c'est qu'on peut on peut relier plein de petits chapitres ou de petits paragraphes à des choses d'aujourd'hui.
Mais il y a aussi quelqu'un qui parle de la pandémie. Qu'est-ce qu'il a eu d'orwellien ce moment-là, selon vous ?
Alors, on s'est mis à parler d'Orwell énormément. En fait, Orwell, il est revenu au-dessus de la pile au moment de la pandémie. Je pense qu'en fait, il est surtout revenu parce que la Chine a énormément fliqué sa population. Et on voyait des images de Chinois passant sur des portiques où on regardait leur iris, où on contrôlait tout.
Et après, en France aussi, on avait un pass sanitaire qui a un peu été critiqué par plein de gens.
Oui,
mais on n'est pas sûr du... Non, mais bien sûr. Mais...
Bon, c'était beaucoup moins intrusif. Beaucoup moins intrusif. Mais tout d'un coup, on s'est retrouvé dans une situation où, en effet, le contrôle était rendu nécessaire, selon les autorités, par la situation sanitaire. Mais c'était le principe du contrôle absolu. Et c'est pour ça qu'Orwell est revenu sur le devant de la scène avec beaucoup de force.
Son couple fictif avec un mystérieux CV n'est qu'une façade. Comme le site très bien renseigné Journal Tech le soulignait dernièrement, elle est en réalité en couple avec Cyril Lacarrière, qui a donc non pas une double, mais une triple vie. Ça commence à faire beaucoup de vie. En tout cas, il est temps de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Non, je rigolais, Cyril est vexé en régie, mais pas du tout. Aujourd'hui, je vous parle d'une émission. Alors, ce générique ne vous parle peut-être pas, et pourtant, il marque le début d'une nouvelle ère à la télévision en 1999 aux Pays-Bas. Le producteur John de Mol lance un programme au concept novateur, enfermer des inconnus dans une maison, les filmer jour et nuit et laisser le public les observer. Il lui donne un nom qui n'a rien d'innocent, Big Brother. La référence est évidemment au roman de George Orwell. Elle est revendiquée. Big Brother est la figure d'un pouvoir totalitaire qui surveille en permanence grâce à des écrans impossibles à éteindre. Dans l'émission, le principe est le même, des caméras partout, une voix omniprésente et des candidats. Sauf que, dans le roman, la surveillance est une violence imposée. Orwell dénonce, veut alerter, parle d'une dystopie, alors qu'à la télévision, cette surveillance devient un jeu accepté, voire recherché. Les candidats signent un contrat pour se retrouver dans une maison avec des inconnus, le public les regarde et devient accro à leur vie quotidienne, et l'enfermement devient un divertissement. Le succès est mondial, Big Brother est décliné dans plus de 70 pays, inspire Love Story en France, Hermano en Espagne, Celebrity Big Brother aux États-Unis. Mais alors que le format s'exporte partout et cartonne, il pose quand même une question. Jusqu'où peut-on pousser le voyeurisme ? En France, avec Love Story, la réponse est très claire. Il va très loin. En 2001, des millions de téléspectateurs assistent en live à une relation sexuelle entre Loana et Jean-Edouard dans une piscine. Une scène filmée puis commentée comme un événement télévisuel. À l'époque, le CSA est saisi, les éditorialistes s'indignent, mais l'audience, elle explose. La télé-réalité devient l'un des genres de programmes les plus suivis dans le monde. Les candidats sont de plus en plus nombreux, jeunes et prêts à tout pour devenir des stars. Les réseaux sociaux ont aussi participé à cette explosion de ce type de programme. Les premiers influenceurs sont issus de la télé-réalité et la plupart ont bien compris comment jouer avec les ficelles de ces émissions pour pouvoir être connus. Ce n'est plus les caméras qui les manipulent, mais eux qui manipulent leur audience, le jeu du chat et de la souris. En 1999, on regardait des inconnus enfermés derrière des murs. Aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui s'exposent volontairement, caméra allumée, statistiques en temps réel. Big Brother ne nous observe plus en silence, il nous a appris à nous observer lui-même.
Merci Manon. Isabelle Jarry, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que Orwell aurait pu penser de Big Brother, des téléréalités qui sont dérivées de l'univers qu'il a imaginé?
En fait, je pense que plus encore que la téléréalité, ce qui l'aurait à la fois horrifié et fasciné, c'est nos téléphones portables.
Le télécran
et ce qu'on met
dans la poche
en permanence. C'est-à-dire que non seulement on a un télécran dans la poche, dont on ne se sépare jamais, enfin vous, je ne sais pas, mais autour de moi, je ne vois personne se séparer de son téléphone portable, et vous postez en permanence des informations sur vous,
spontanément.
Personne ne vous a rien demandé, vous alimentez les banques de données qui sont qui deviennent de plus en plus énormes. Et moi, quand je dis à mes enfants, mais arrêtez de mettre n'importe quoi sur Instagram, sur TikTok, etc., ils me disent, mais on s'en fiche. Au mieux, on n'a rien à cacher. Au pire, qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent? Je dis, ben là, aujourd'hui, rien, bien sûr. Mais le jour où ça tourne mal, tout est là.
Bonjour Marine Leonardi.
Bonjour Mathieu.
Vu votre tête, j'imagine que vous n'avez jamais pris de drogue, vous.
Et comment vous pensez que je tiens dans cette équipe?
Visiblement, pour 2026, elle a pris la bonne résolution d'être aimable. La chronique de Marine Leonardi, c'est à suivre après The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight sur France Inter.
To the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, block the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And
And next on the mic is my man Hank. And come on, Hank, sing that song.
Check it out. I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons, I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. A Master G, oh my mellow, it's on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there. Air. You're rocking to the beat without a care. Cruise to the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter pop, the pop, the pop, the pop, the pop, 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 pop.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Marine Leonardi, vous, je crois que vous ne comprenez pas pourquoi on vous a confié ce sujet sur le fentanyl.
Bah, fentanyl, vous vous êtes dit, allez hop, on met la vieille Leonardi sur le coup, la pauvre, ça la fera un peu voyager, elle n'a pas dû beaucoup s'évader pendant son réveillon. Et je confirme que la dernière fois que ma tête a tourné, c'était à cause d'une mitre pas fraîche. Oh. Il arrivait la même chose au mec de Manon, mais moi, c'était vraiment le crustacé. C'est succulent. C'est dingue, hein, quand même. Vous vous êtes dit, la meilleure pour parler de drogue, c'est la Leonardi. Personne ne porte autant de chemisiers à motif de son propre chef sans prendre une mine de temps en temps. Vous vous êtes dit ça, je le sais. Eh bien, détrompez-vous. J'ai rarement pris de la drogue. La dernière fois, c'était en 2017 et j'ai eu des hallucinations. J'ai cru que mon mari avait vidé le lave-vaisselle après m'avoir fait l'amour. Ah non, ah, j'en ai plus jamais repris. La descente a été trop douloureuse, c'était horrible. En tout cas, je vois que l'année 2026 commence sous les meilleurs auspices. Hein. Alors, la France, elle, est la deuxième plus grande consommatrice européenne de l'Exomil. Et en même temps, hein, quand sur la boucle familiale, tu as des membres de ta famille ou de ta belle-famille, j'entretiens le doute, mais sachez que mes parents n'ont pas WhatsApp, qui défendent Brigitte Bardot, sachant que la dame préférait quand même les phoques aux Arabes, hein, enfin, les immigrés en général, et l'oncle de mon mari de rajouter « Ouais, les deux souffrent du réchauffement climatique, mais les phoques, au moins, ils restent chez eux. » Bon, eh ben, prépare-moi une ligne de quêta, Gérard, l'année va être très très longue. Hein. C'est vrai qu'on n'a jamais vu de phoques dans le Nord-Pas-de-Calais, à part ta femme Véronique. Non, je plaisante, il y a plein de phoques sur la baie de Canche. Rigole pas à cette vanne, mon Pierrot, vu ce que tu fais de tes samedis soirs, la barre d'eau, elle t'aurait dégagé aussi. Hein. Et ta petite tête de teckel t'aurait pas sauvé. Après, je sais de sources sûres que certains dans l'équipe prennent de la drogue, sinon impossible de rire aux blagues de Cyril. Hein. Non, mais tire sur mon doigt pendant 130 jours d'affilée, je peux te dire qu'il faut être équipé. Hein. Non, il y en a qui n'ont pas tenu. Hein. D'autres ont arrêté la drogue parce que la minute de Pierre Courade leur a semblé durer 3h30. Ah non, mais c'est très compliqué après d'enchaîner sur un micro-trottoir et de se dire que tout est normal. Hein. Je trash l'équipe parce que voulez-vous que je vous dise, c'est tellement triste la réalité derrière le fentanyl. Alors, c'est surtout répandu aux États-Unis, mais apparemment, ça arrive en France, enfin, même s'il y a peu de chance. Perso, je pense que c'est déjà là quand on voit la ligne éditoriale de certains médias. Je rappelle que la paranoïa est un des effets secondaires. C'est pas possible hein, de voir autant de femmes voilées dans la rue sans prendre quelques substances. Vraiment. Non, la dernière fois, j'ai acheté une cagoule en cachemire, j'ai eu peur de finir aux 20h. J'ai bien mis en évidence ma croix de Jésus, j'avais trop peur de me faire couper. Oh là là, la bourgeoise, elle dénonce. Oh, bah, j'ai sniffé un peu de CBD mélangé à des fleurs de Bac juste avant l'émission. Ah, je peux te dire que ça désinhibe. J'ai croisé Adèle Vendrette, je lui ai dit « Eh, je te préviens, l'année prochaine, tu me mets sur la matinale !» Elle m'a répondu Tu penses qu'on a déjà pas assez de problèmes comme ça, Marine? Déjà qu'on se tape le père la carrière, hein? Personne n'a envie d'entendre parler de ta chatte à 7h30 du matin, Marine. Bah, c'est ce que mon mari me dit aussi. Il a même rajouté, je suis plus excitée par la voix de Duhamel. Bon, à moins que ce soit Adèle qui ait dit ça, je sais plus. Les ravages de la drogue.
Les tristes ravages de la drogue, en effet. Merci, Marine Leonardi, à la réalisation de ce best-of. C'était Alicia Vulot. Nous, on se retrouve lundi en direct, direction l'Ukraine et l'hypothèse d'une force de réassurance en cas de cessez-le-feu. À quoi ça servira? Qu'est-ce que c'est exactement? On tâchera d'y voir plus clair. À suivre, la balade de Vincent Josse. Bonjour Vincent, qui a la chance d'être votre invité aujourd'hui?
Bonjour Mathieu, je reçois Laurent Voulzy dans la balade.
Zoom Zoom Zen.